pour la Guinée, nous sommes relativement en avance sur les questions d'économie numérique et d'innovation technologique. Et nous tenons pour l'Afrique l'année prochaine, d'ailleurs, la réunion de qu'on appelle Smart Africa. Et donc, on a présidé à cette réunion là-bas, au nom de toute l'Afrique, et signé des accords économiques avec le Japon pour contribuer à appuyer non seulement la Guinée, mais également les autres pays. Ça, c'est le premier accord qui était intéressant. Le second, c'est par rapport au domaine de la pêche. Nous avons toujours soutenu le Japon sur les questions de la pêche, les questions baleinières, etc. Et là aussi, nous avons signé des accords très intéressants dans la réfection de quelques ports de pêche pour les populations riveraines, notamment à Conakry. Et sinon, par ailleurs, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires ont créé des nouveaux liens, surtout par rapport à nos produits que nous entendons exporter ou également les produits que nous pouvons importer par ailleurs. J'allais dire au niveau de la coopération générale en tant que telle, ce qui nous a énormément interpellés, c'est vraiment les questions de résilience. Comment approfondir une société durable et résiliente? Parce que c'est vraiment la question pour l'Afrique. Et comment lutter contre la pauvreté pour les Africains les plus vulnérables?
Et en matière de sécurité, est-ce qu'il y a eu quelques discussions aussi?
Absolument. Donc la première sécurité, c'est exactement celle que je viens d'aborder, dont on ne parle pas souvent. La sécurité humaine en termes de santé et nutrition. Et la seconde sécurité dont on parle plus pour la paix et la stabilité, spécialement dans la région du Sahel et des pays limitrophes au Sahel. J'ai eu le privilège de prononcer le discours de la Guinée à ce moment-là et la philosophie véritablement du professeur Alpha Condé, c'est de s'assurer que nous contribuons de toutes les façons possibles à la sécurité de nos pays voisins. Parce qu'en s'assurant que le Sahel va bien, cela veut dire que les difficultés ou l'insécurité ne vont pas glisser pour aller dans les autres pays côtiers. La Guinée contribue avec ses forces militaires au nord du Mali déjà.
L'on sait que le Japon est très dépendant finalement de l'Afrique. Hein. Il importe pour 100 milliards de dollars par an et exporte en revanche très peu. Est-ce que cela ne vous met-il pas finalement en position de force dans le sens où vous avez la possibilité de vraiment négocier des accords, comme on dit, gagnant-gagnant?
Absolument. Là, c'était vraiment l'opportunité de négocier des accords gagnant-gagnant. Parce que s'il est vrai que le Japon est vraiment l'un des premiers pays à avoir instauré une collaboration avec les pays d'Afrique depuis plus de 60 ans maintenant, on ne l'avait pas apporté à un niveau aussi élevé. Et cette fois-ci, ça a été l'opportunité de développer, de signer des accords vraiment gagnant-gagnant de part et d'autre. Et je crois que les Africains et la Guinée particulièrement, nous avons quitté le Japon très heureux de ce qui nous attend pour le futur proche.
Des questions très importantes telles que l'accès à l'électricité, donc en matière d'énergie et autres, en matière de ressources naturelles, notamment la bauxite. Est-ce qu'il y a eu des points importants qui ont été traités ou qui sont en passe d'être traités sur ces questions-là?
Tout à fait. Et je crois que le message principal du président Alpha Condé avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, c'était vraiment cela. Nous sommes un pays mature et adulte maintenant. Nous voulons des accords d'égal à égal et donc nous avons des matières premières qui valent leur pesant d'or dans le terme développement économique sur la planète et donc nous voulons des échanges commerciaux qui rapportent aux deux pays. Et je crois que ça a été bien entendu des deux côtés, nous dirigeons plutôt dans ce sens-là. Aujourd'hui, la Guinée est le premier producteur mondial de bauxite. Nous commençons à faire la transformation au niveau local et nous avons véritablement des matières exportables pour le plus grand intérêt des populations japonaises et aussi pour la profitabilité pour le développement de la Guinée.
Le prochain sommet, c'est Russie-Afrique en octobre. Est-ce que vous allez vous y rendre?
A priori, oui. C'est un autre grand sommet que l'on attend avec grande impatience. Je crois que l'Afrique devient très attractive dans toutes ses composantes. Nous sommes à une période où elle est véritablement majeure et mature. Et les partenaires veulent de plus en plus discuter avec nous, d'égal à égal, et voir ce qu'ils gagnent, mais aussi, nous aussi, savoir ce que nous tirons de cela, non pas en aide, le temps de l'aide simple est dépassé, mais véritablement des accords qui permettent de faire des engagements et d'un développement économique sérieux.
Madame la ministre, est-ce que vous avez déjà une idée pour vous-même en ce qui concerne votre secteur, hein, la coopération internationale, des défis qui sont à relever avec les pays extérieurs, donc, et notamment la Russie, puisque c'est le sujet sous peu?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de la coopération internationale, tous les secteurs relèvent quelque part de nous. Nous négocions la majorité des accords en directe relation avec les ministres sectoriels. Mais pour la Russie, par exemple, il faut reconnaître à la Russie que c'est vraiment le premier partenaire qui nous a permis de faire la transformation de la bauxite sur place en Guinée. Donc ce que nous attendons de Sojitz, c'est de nous assurer à quelle étape supérieure nous pouvons prendre la collaboration que nous avons dans ce domaine-là. On en a parlé parce que j'étais en Russie il y a un mois maintenant pour la commission mixte Russie-Guinée que j'ai présidée. Et donc nous avons déjà avancé sur ces sujets. J'ai rencontré le patronat russe également pour savoir les différents partenariats à mettre en place avec notre partenariat et notre secteur privé. Et tout ceci s'est extrêmement bien passé. Donc la Russie, c'est beaucoup d'espoir pour la Guinée. Mais c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi qu'ils nous avaient aidés du côté scientifique quand nous avons eu la crise de la maladie à virus Ebola en Guinée. Ils nous ont énormément supportés. Et là aussi, il y aura une table ronde sur ce sujet pour le futur, pour voir comment la sécurité humaine du côté santé cette fois-ci aussi soit toujours prise en compte. Parce qu'il est bon de rappeler qu'aussi bien la Russie que les États-Unis, que la France nous avaient apporté un grand appui. Et j'oublie le quatrième qui en avait apporté un tout aussi grand, qui était le Royaume du Maroc.
À propos du futur, Madame la Ministre, je reviens sur le Japon, la Russie, tout autre pays, donc grande puissance qui pourrait apporter quelque chose en matière de coopération, la jeunesse et les femmes. Lors de ces rencontres, est-ce que vous mettez l'accent sur le problème du chômage en Guinée en espérant que cette forme de collaboration avec l'étranger puisse apporter un quelconque soutien sur cette question?
Absolument, tout le temps. La jeunesse et les femmes, c'est véritablement les questions transversales et horizontales de toutes nos discussions, de toute la coopération guinéenne sous mon leadership. Cela ne souffre d'aucune discussion. C'est pour ça que j'ai commencé par la partie qui m'intéressait le plus, la résilience. C'est tellement important. Comment nous assurer en Guinée que les jeunes et les femmes soient au centre des discussions? Et ça commence par la sécurité simple, à savoir la santé, la nutrition. Mais à côté de cela, l'éducation est une problématique sérieuse en Guinée, soit l'éducation pour les jeunes, mais aussi le renforcement des capacités pour les femmes et les adolescents pour s'assurer qu'ils puissent répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui.
Donc vous avez parlé tout à l'heure, notamment par rapport au Japon, des nouvelles technologies, des TIC, de l'innovation, ça passera par là pour la population jeune de Guinée?
Ça passera par là, ça passera par les sciences, la technologie et l'innovation. Aujourd'hui, nous faisons de plus en plus de formations en ce qu'on appelle en coding, à l'accès aux technologies de l'information. On n'est pas obligé de passer par l'éducation classique pour pouvoir les utiliser, étant donné que c'est attractif à l'ensemble de la population, même la plus rurale, quand on sait que le téléphone mobile se retrouve partout sur le territoire national. Donc on profite de cela pour atteindre le maximum de jeunes et le maximum de femmes dans leur meilleur intérêt.